Anne, chers amis, en France comme dans toute l'Europe, les licenciements se multiplient et le chômage s'envole. Même selon l'Eurostat, l'officine de statistiques de l'Union européenne, qui ne récapitule que les données officielles bien en dessous de la réalité, le nombre de chômeurs à l'échelle de l'Union européenne dans son ensemble dépasse les 20 millions de femmes et d'hommes. Le chômage est une catastrophe sociale qui n'a rien de naturel. Ce n'est pas une fatalité. Il est une des conséquences dramatiques du fonctionnement de l'économie capitaliste. 20 millions de personnes condamnées au chômage, dans la réalité probablement le double, c'est autant de familles condamnées à survivre avec des allocations insuffisantes dans la partie la plus riche de l'Europe et dérisoires, voire inexistantes, dans la partie la plus pauvre. Pourtant, l'Europe, plus précisément sa partie occidentale, est une des régions les plus riches du monde, riche du travail passé et présent accumulé par ces classes laborieuses, mais riche aussi du pillage du reste du monde. L'OCDE, l'Organisation économique des pays industrialisés, annonce que d'ici 2010, ces pays compteront 25 millions de chômeurs de plus et que le taux de chômage officiel y dépassera les 10% en moyenne. Et c'est une moyenne. En Espagne, le nombre officiel de chômeurs a déjà dépassé les 4 millions, plus de 17% de la population active. Dans certains pays baltes, vantés il y a peu pour leur essor fulgurant depuis leur intégration dans le marché capitaliste, le taux de chômage talonne les 20%. Et d'un bout à l'autre du continent, c'est le même spectacle d'usines qui réduisent leur activité ou qui ferment et qui licencient. Un peu partout, on réduit les salaires, parfois directement, parfois par le biais du chômage partiel. Le capitalisme en crise est en train d'unifier le sort des travailleurs d'Europe, mais en l'alignant par le bas. Alors, si nous nous présentons dans ces élections européennes, c'est en premier lieu pour dénoncer le système économique qui conduit à de telles catastrophes. Nous nous présentons pour dénoncer les grands groupes industriels et financiers qui exercent une dictature sur l'économie et sur toute la vie sociale et qui sont de ce fait plus puissants que les dirigeants politiques. Nous nous présentons pour affirmer que mettre fin à cette dictature est une nécessité vitale pour l'écrasante majorité de la population partout en Europe. Il faut réorganiser l'économie afin qu'elle vise à satisfaire les besoins de tous au lieu d'être orientée pour permettre à une petite minorité d'accumuler de plus en plus de profits. La crise se moque des frontières. Pendant que les dirigeants européens continuaient de mentir en prétendant qu'elle resterait cantonnée aux États-Unis, elle traversait déjà l'Atlantique pour atteindre l'Europe. Un autre mensonge consiste à prétendre qu'il faudrait revenir en arrière, aux frontières nationales et aux protectionnismes nationaux. Les frontières n'arrêtent pas la crise. Et le protectionnisme n'est jamais fait pour protéger les intérêts des travailleurs d'un pays, mais toujours pour protéger ceux des capitalistes et des banquiers. Non, il n'y a rien à attendre de ces institutions de l'Union européenne, pas plus qu'il n'y a à attendre d'ailleurs des institutions de la France, parce qu'elles sont toutes des institutions de la bourgeoisie. Non, la construction européenne n'est pas ce conte de fées humaniste que racontent les hommes politiques les plus pro-européens. C'est une histoire de froid calcul et de sordide marchandage où l'intérêt des peuples n'entre pas en ligne de compte. Comment l'Union européenne pourrait-elle représenter davantage l'intérêt des peuples, c'est-à-dire avant tout des classes populaires, que les États qui la composent? L'Europe est l'Europe du capital pour la bonne raison que la France, l'Allemagne, sont la France et l'Allemagne du capital. Et ceux qui prétendent que les coups contre les services publics, contre les quelques articles de loi protégeant les travailleurs, viennent de Bruxelles, des institutions européennes de tel ou tel traité, visent surtout à dégager la responsabilité de nos gouvernements, de notre classe de possédants. Bruxelles ne prend aucune décision importante qui ne soit pas voulue, ou du moins avalisé par les gouvernements nationaux, dont le gouvernement français. Et par-dessus tout, les gouvernements nationaux comme la Commission européenne ne sont que les commis du grand capital. L'Union européenne est conçue dans les traités comme Maastricht et Amsterdam, pour accroître les profits des multinationales européennes sur le dos de leurs propres salariés, mais aussi sur la misère des peuples des pays les plus pauvres. Car leur Europe est aussi une machine de guerre pour aider leurs financiers à piller plus efficacement les pays du tiers-monde. L'Union européenne actuelle, l'Europe de la bourgeoisie, n'est ni tout à fait européenne, ni une véritable union. Pas tout à fait européenne, car un grand nombre de pays représentant près de la moitié du continent n'en font pas partie. Les uns, comme la Norvège ou la Suisse, parce qu'ils ne le veulent pas, les autres, parce qu'on ne veut pas d'eux. De l'Ukraine à la Serbie, de la Moldavie à la Géorgie, sans même parler de la Russie ou de la Turquie. Et l'Union européenne n'est pas non plus une véritable union, car même à l'intérieur, les frontières nationales sont loin d'être devenues de simples limites administratives. Chacun des États mène sa propre politique dans une multitude de domaines. L'Union européenne est loin de devenir une entité comparable aux États-Unis. L'Union européenne n'a pas mis fin non plus aux relations de dépendance économique des pays de l'Est européen par rapport aux vieilles nations impérialistes d'Europe occidentale. Et lorsque, à partir de 1989, à l'approche de la dislocation de l'Union soviétique, tous ces pays ont ouvert leurs frontières et leur économie à l'Occident, les capitaux occidentaux se sont jetés sur eux et se sont appropriés tous les secteurs profitables, des banques aux grandes chaînes de distribution, des entreprises industrielles au secteur hôtelier. Et toute la politique des grandes puissances impérialistes co-gérantes de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne principalement, et de priver les pays nouveaux venus dans l'Union des moyens juridiques de peser sur la politique de l'ensemble. Il est resté, dans le fonctionnement de l'Union européenne, des vestiges de ses débuts, lorsqu'elle était l'association de quelques pays impérialistes seulement. Chacun des pays membres avait alors son droit de veto sur le fonctionnement de l'ensemble, d'où la coutume, consolidée par les traités, que toutes les décisions importantes devaient être prises à l'unanimité. C'est cette coutume qui est devenue inacceptable pour les grandes puissances, dès lors qu'ont été admises dans l'Union européenne les semi-colonies de l'Est de l'Europe. Car ce droit de veto permettait aux petits pays, au moins, de marchander avec les grands. C'est pour mettre fin à cette situation qu'avait été concoctée cette fameuse Constitution européenne, qui n'a pu entrer en application parce qu'elle a été rejetée en 2005, par référendum en France et aux Pays-Bas. Les référendums, c'est bien joli, mais quand on demande son avis à l'ensemble de l'électorat, il est capable de répondre non. Ce rejet a ennuyé les dirigeants européens, mais ils ne mirent pas longtemps pour imaginer un autre texte, le traité de Lisbonne, qui reprend l'essentiel du projet de constitution. Autant dire qu'ils se moquent de l'avis clairement exprimé de la population. En France, la Constitution, chassée par référendum, est revenue par la fenêtre, par un vote à l'Assemblée nationale, à la botte du pouvoir. Mais le traité de Lisbonne n'est toujours pas adopté, l'Irlande l'ayant soumis à un référendum. Une fois de plus, l'électorat a répondu non. Et faire re-re-voter les Irlandais jusqu'à ce qu'ils répondent oui, eh bien ça prend du temps. Ces retards agacent les dirigeants politiques d'Europe, mais au fond, tout cela est secondaire pour les grands groupes capitalistes. Ils ont dominé l'Union européenne avant les micmacs constitutionnels et ils la domineront après. Et avec ou sans le traité de Lisbonne, ils continuent à piller la partie sous-développée de l'Europe. On nous dit que l'Europe nous a protégés de la crise. La crise a accentué avant tout les oppositions et les inégalités entre l'Europe impérialiste et l'Europe dominée à l'Est. Dans l'Est de l'Europe, la crise a des contre-coups bien plus graves encore. Le chômage y est bien plus élevé. Leur monnaie nationale s'effondre, d'autant plus qu'elles font l'objet d'une spéculation monétaire intense. Les pays de l'Est n'appartenant pas, à deux exceptions près, à la zone euro. Et, fait caractéristique, ce n'est pas l'Union européenne mais le Fonds monétaire international qui leur prêtent de l'argent en contrepartie de plans d'austérité de plus en plus draconiens. Et sur la ruine de ces économies en émeraude se développent des courants politiques nauséabonds, racistes, anti-roms ou xénophobes contre les minorités issues des nations voisines. L'alliance économique entre les pays impérialistes fondateurs de l'Union européenne est elle-même secouée. Tous les commentateurs soulignent, pour le déplorer ou pour s'en réjouir, que l'Union européenne s'est révélée totalement incapable de réagir face à la crise. Le seul point sur lequel se sont entendus les dirigeants des principales puissances impérialistes d'Europe est le « chacun pour soi ». Chaque État s'est porté au secours de sa bourgeoisie, au risque de compromettre l'Union elle-même. Le gouvernement français a aidé PSA et Renault, celui d'Allemagne s'apprête à le faire avec pour Volkswagen. Tous les États de la zone euro sont intervenus dans la crise pour accorder des subventions ou des prêts avantageux à leur bourgeoisie. Partout, cela s'est traduit par une aggravation de la dette publique, qu'évidemment chaque État cherchera à faire payer à toute sa population, soit par des hausses d'impôts, soit par des économies sur les services publics. Et puis, faut-il le rappeler, alors qu'à l'intérieur, l'Union européenne est loin d'avoir transformé les frontières nationales en simples limites administratives, elle les a renforcées à l'extérieur. L'Europe des bourgeois, c'est une Europe entourée de barbelés. Ceux qui faisaient mine, dans le passé, de se révolter contre le rideau de fer qui entourait naguère l'Union soviétique et son glacis, sont en train d'ériger un nouveau rideau, électrifié cette fois, pour empêcher le passage de ceux qui viennent de plus loin à l'est, d'Irak, d'Afghanistan, de Russie, du Sri Lanka, voire de Chine. Et ces nouveaux barbelés de la frontière de Schengen partagent parfois en deux un même peuple, et séparent en tout cas des peuples voisins. Le plus révoltant peut-être est le rideau de fer que l'on est en train d'élever en plein milieu de la Méditerranée. Les barrières électrifiées autour des enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, et les navires de guerre qui font la chasse aux boat people pour empêcher des femmes et des hommes venant du Maghreb ou d'Afrique de passer sur l'autre rive, symbolisent plus leur Europe que toutes les déclarations officielles sur les droits de l'homme. Toute l'histoire lie pourtant les peuples des deux rives de la Méditerranée. Elle lie l'Europe à l'Afrique. L'histoire, mais aussi le présent, car sur les chaînes de production des usines automobiles, les travailleurs nés en France côtoient des travailleurs nés de l'autre côté de la Méditerranée plus souvent que des travailleurs originaires d'autres pays d'Europe. Mais cette Europe des marchands, si sourcilleuse sur la question de la concurrence non faussée, si prompte à réglementer à tort et à travers quand il s'agit de la circulation des marchandises, ne se soucie pas du tout, en revanche, des êtres humains. Si le marché est plus ou moins harmonisé, les droits sociaux ne le sont pas. Et même pour un droit aussi élémentaire que le droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse, l'Union européenne s'accommode parfaitement que la Pologne, l'Irlande, Chypre et Malte le refusent. Quant à Malte, elle interdit même le divorce. Nous sommes tout à fait d'accord avec les associations qui, comme celle initiée par Gisèle Halimi, revendique la clause de l'européenne la plus favorisée. Cette clause impliquerait qu'en matière de divorce, d'interruption volontaire de grossesse, mais aussi de durée du congé maternité, de protection contre les violences, la législation du pays où elle est la plus favorable pour les femmes s'applique à l'échelle de l'Europe. Finalement, ce qui est le plus riche d'espoir dans la construction européenne du point de vue des travailleurs et de l'avenir de la société, c'est que l'Union européenne réunit dans un même ensemble géographique et économique plus de 210 millions de salariés en activité ou au chômage. Le groupe Peugeot-Citroën n'exploite pas seulement ses travailleurs polonais de Rennes, de Mulhouse ou de Sochaux ici en France, mais aussi ceux de Kolín en Tchéquie, ceux de Travna en Slovaquie, ou plus près, ceux de Vigo ou de Madrid en Espagne, sans parler des usines en partenariat avec d'autres constructeurs automobiles en Italie ou en Russie. Les stations-service portent les marques de la même demi-douzaine de trusts du pétrole présents partout dans le monde, comme sont présents partout les guichets des mêmes banques. Au-delà de ce qui est visible, les mêmes grands capitaux sont derrière une multitude d'entreprises industrielles ou d'enseignes commerciales qui parsèment tout le territoire de l'Union européenne. Pour le moment, ces 210 millions de prolétaires ne sont unis que dans la même inquiétude devant les licenciements ou devant le chômage. Eh bien, ils finiront par se rendre compte que d'une extrémité de l'Europe à l'autre, on retrouve parmi nos exploiteurs les mêmes groupes industriels et financiers. Et ce que nous espérons, c'est que demain les travailleurs, les chômeurs de l'Union européenne soient unis par la conscience qu'ils ont les mêmes intérêts et qu'ensemble, ils constituent une force capable d'imposer leur droit à une existence digne. Même pour se défendre face à la bourgeoisie, il faut que les travailleurs soient conscients que ceux des autres pays ne sont pas des adversaires. Ils sont plus que nos alliés, ils sont une partie de nous-mêmes. Le prolétariat ne pourra pas s'émanciper à l'échelle d'un seul pays d'Europe, mais seulement au minimum à l'échelle de l'ensemble de ce continent. Alors, tout en nous opposant à l'Union européenne et à ses institutions, parce qu'elles sont toutes des instruments de la bourgeoisie, nous avons la conviction que l'unification de l'Europe est une bonne chose. Parce que la transformation des frontières en simples limites administratives, la libre circulation des hommes et des produits, une monnaie unique pour un territoire de 493 millions de personnes, cela pourrait être un progrès. L'époque où les nations se sont construites dans le sang et la violence, où les frontières ont été établies au hasard des guerres, serait enfin vraiment révolue. Et ce n'est nullement contradictoire avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à gérer leurs propres affaires. Les frontières d'aujourd'hui morcellent le bien des peuples, et les États nationaux, sur lesquels ne s'exerce pas un véritable contrôle démocratique, réduisent souvent des minorités nationales au silence quand ils ne leur mènent pas la guerre. Nous nous opposons à ceux, et ne sont pas seulement à droite et à l'extrême droite, qui jouent sur la démagogie nationaliste en tentant de faire croire que les travailleurs de ce pays auraient quelque chose à craindre des travailleurs au-delà des frontières et qu'ils auraient des intérêts communs avec le patronat de leur pays. La classe ouvrière de France, comme celle d'Europe, est formée de travailleurs de toutes origines. Eux ou leurs familles ne viennent pas seulement de différentes régions de l'Hexagone, mais également d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de toute l'Europe et aussi du Maghreb, de toute l'Afrique, d'Asie ou des Antilles. Dans les usines, dans les bureaux ou sur les chantiers, ils produisent tous pour la même économie et ils sont exploités par les mêmes capitalistes, quelle que soit leur langue ou la couleur de leur peau. La minorité de parasites qui exploitent les travailleurs, voilà les seuls étrangers au monde du travail. Il y a un siècle déjà, le mouvement communiste parlait de la nécessité des États-Unis socialistes d'Europe. Nous, les communistes révolutionnaires, nous sommes même les seuls à souhaiter l'unification complète de l'Europe, d'un bout à l'autre du continent, sans exclusive. Nous sommes pour que disparaissent les voiles, les barbelés qui séparent les peuples, que disparaissent ces drapeaux nationaux que les dirigeants brandissent pour jeter les peuples les uns contre les autres. Nous sommes pour que les frontières deviennent de simples limites administratives tant que les peuples éprouveront le besoin de se démarquer d'autres peuples. Mais elles finiront par disparaître complètement. L'avenir n'est pas aussi seulement, mais à l'échelle européenne. Il est à l'entente fraternelle entre les peuples pour gérer enfin en commun cette planète qui est la seule patrie pour l'humanité. Alors venons-en aux revendications immédiates que nous reprenons à notre compte dans cette campagne électorale. on parle de l'Europe sociale, mais il n'y en a pas. Quant à la revendiquer, c'est ridicule. Le capitalisme social n'a pas plus de sens à l'échelle de l'Europe qu'à l'échelle de la France. Le Parlement se vante, par exemple, de sa directive sur la durée maximum de travail hebdomadaire, fixée à 48 heures. Il n'y a vraiment pas de quoi. 48 heures n'étant qu'une moyenne sur 12 semaines. Cela autorise de toute façon des semaines de 50, 60 heures, sans parler de toutes les dérogations possibles. Un autre fait d'armes du Parlement européen en matière sociale et des droits des femmes est d'avoir voté l'autorisation du travail de nuit pour les femmes dans l'industrie. Alors, plutôt que se gargariser de l'expression creuse d'Europe sociale, il faut revendiquer des mesures concrètes comme l'alignement du temps de travail sur le pays où il est le moins élevé, ou celui de l'âge de la retraite sur celui où il est le plus bas. Il faut aussi revendiquer l'harmonisation de la législation sociale par le haut, de façon à ce que les quelques protections sociales qui existent dans les pays où la situation des travailleurs est la moins défavorable soient imposées partout. Quant aux salaires, leur inégalité au sein de l'Union européenne est révoltante. Le SMIC, par exemple, est d'un rapport de 1 à 17, de 92 euros mensuel en Bulgarie, à 1570 euros au Luxembourg. Mais dans 7 pays d'Europe, il n'existe même pas. Pourtant, avec l'intégration dans l'Union européenne, les prix ont tendance à augmenter. La vie n'est guère moins chère dans les grandes villes de l'Est de l'Europe que dans celles de l'Ouest. Et c'est ce qui pousse les travailleurs de ces pays à des luttes pour des augmentations de salaire. Les travailleurs de France ont toutes les raisons d'être solidaires des travailleurs qui, comme ceux de Dacia en Roumanie, luttent pour des hausses de salaire. Ils ont intérêt à l'harmonisation par le haut de leurs conditions d'existence. C'est la meilleure façon de combattre les délocalisations, en tout cas à l'intérieur de l'Europe, sans parler de cet avantage moral, mais ô combien important, que plus les conditions d'existence des travailleurs convergent, plus s'impose l'idée que par-delà les frontières, nous sommes une seule et même classe ouvrière. Il faudra aussi que les travailleurs imposent des droits politiques égaux dans toute l'Europe, à commencer par le droit de vote pour tous ceux qui travaillent et vivent sur son sol. Pourquoi les travailleurs immigrés ne pourraient-ils pas s'exprimer dans le pays où ils travaillent et où ils payent des impôts? Les capitalistes peuvent bien, eux, quelle que soit leur nationalité, acheter librement dans toute l'Europe des journaux et des chaînes de télévision et peser ainsi sur la politique bien plus qu'un bulletin de vote. Il faut supprimer toutes les lois discriminatoires à l'égard des travailleurs en fonction de leurs origines et il faut partout régulariser les sans-papiers. Des mesures de survie indispensables pour tous les travailleurs de l'Union européenne pour que les travailleurs évitent la misère à laquelle les pousse la rapacité du grand patronat. Pour imposer ces mesures de survie, il faudra des luttes importantes. Et nous avons la conviction que lorsque ces luttes importantes s'engageront, elles ne s'engageront pas seulement à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle internationale, ou en tout cas à l'échelle de l'Europe ou d'un grand nombre de pays d'Europe. Nous avons cette conviction qui est en même temps une perspective, parce que partout en Europe, la classe capitaliste mène la même offensive, mais aussi parce que l'histoire nous le montre. Lorsque, se relevant de l'abattement causé par la grande crise de 1929, la classe ouvrière a relevé la tête de 1934 à 1936, ce ne fut pas qu'en France, mais aussi en Espagne, et à des degrés divers dans plusieurs pays d'Europe et du monde. Et lorsque la classe ouvrière s'ébranlera et engagera la lutte pour se défendre avec tous les sacrifices qu'exigent les grèves, les manifestations, les mouvements sociaux de grande ampleur, il faudra alors qu'elle mette en avant des revendications qui modifient réellement son rapport de force avec la bourgeoisie. Il faudra alors que la classe ouvrière reprenne à son compte des objectifs qui lui permettent de contester la dictature des grands groupes capitalistes sur l'économie. Pour lutter contre le chômage et la baisse du pouvoir d'achat, il faut éclairer, rendre public tout ce qui se passe dans les finances des grandes entreprises. Il faut savoir où va l'argent quand elle spécule au lieu d'investir. Quand elles achètent d'autres entreprises, ici ou à l'étranger, il faut que l'on sache pourquoi faire et comment elles vont les utiliser. Il faut connaître les relations entre les grandes entreprises et leurs sous-traitants, comme entre les petits producteurs et les grandes chaînes commerciales. Qui empoche les marges? Quels sont les dessous de table? Qui étrangle qui? Pour cela, il est impératif de supprimer le secret des affaires. Et on verrait que les licenciements collectifs ne sont jamais une nécessité, mais toujours un choix pour plus de profit. Il faut que la presse, y compris la presse syndicale, ait la liberté de publier les comptes des entreprises et des banques afin que tout le monde puisse savoir quelle est la part des profits, celle des salaires, ce qui est payé et acquis. Imposer un contrôle sur les finances des entreprises est le seul moyen d'empêcher que l'argent qu'elles accumulent soit détourné vers la spéculation financière. Mais ce contrôle doit être exercé par les travailleurs eux-mêmes. Aujourd'hui, les serviteurs patentés de la bourgeoisie, à la tête des ministères, parmi les députés ou dans les médias, ne cessent de répéter qu'il fallait débloquer des centaines de milliards d'euros en faveur des banques, que c'était nécessaire pour tout le monde, car il fallait sauver les banques sous peine d'une catastrophe économique bien plus grave encore. Mais sauver les banques ne signifie pas sauver les banquiers, leur fortune, leur sinécure, leur mainmise sur l'économie mondiale, alors qu'ils viennent de montrer leur irresponsabilité totale. Le programme que nous défendons par rapport à la crise financière, c'est l'expropriation de toutes les banques, leur réunification en une banque centrale unique, soumise au contrôle de ses employés, mais aussi de tous les usagers des classes populaires, de tous les petits déposants. Bien sûr, tout ce programme que je viens d'évoquer n'est pas un programme électoral. Aucune élection, aucune majorité électorale sortie des urnes ne peut imposer des objectifs qui ne peuvent se réaliser que par la lutte de classe menée contre la dictature des groupes industriels et financiers, par une classe ouvrière puissamment mobilisée et pleinement consciente de son rôle et de ses intérêts politiques. Le programme dont je viens de parler, nous le défendons depuis bien des années, et pas seulement à l'occasion des élections. Mais un programme, ce ne sont que des idées qui ne deviennent une force, pour reprendre l'expression de Marx, que si les masses laborieuses s'en emparent. Eh bien, la crise peut devenir un accélérateur pour une prise de conscience du monde du travail. Le 7 juin, votez et faites voter pour la liste lutte ouvrière.